Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 16. Un futur Premier ministre. Ce nouveau venu était un homme de 30 à 32 ans, de haute taille, d'apparence vigoureuse et de mine insolente. Il portait d'un air triomphant une livrée neuve fort éclatante et fort chamarrée. Veste verte, galonnée d'argent, culotte rouge, habit écarlate, galonné d'argent sur toutes les coutures. Un petit chapeau lampion, galonné à outrance, se posait d'une façon très crâne sur ses cheveux poudrés et roulés en boudin. Son mollet nerveux ressortait à merveille sous un bas blanc bien tiré. Ses larges pieds s'étalaient dans des souliers carrés, pourvus d'énormes boucles d'argent. La figure large et colorée de ce quidam ne manquait pas d'une sorte de régularité. Mais elle offrait une expression tout à la fois arrogante et basse, qui déplaisait au premier abord. C'était bien un visage de laquais. Son entrée dans un cabaret dont nous connaissons la population habituelle devait faire et fit en effet sensation, et même un peu plus qu'il ne l'aurait désiré. « Que vient faire ici ce perroquet ?» demanda la voix d'un plaisant qui faisait spirituellement allusion au costume vert et rouge du nouveau venu. « Dis plutôt cette écrevisse !» répondit une autre voix. « Le drôle a sur son habit coquelicot !» s'écria un troisième. « Plus d'argent en galon qu'il n'en faudrait pour nous abreuver pendant 3 jours !»« À la porte, le perroquet !»« À la porte, l'écrevisse !»« Oui, oui, qu'il s'en aille !»« Mais qu'il laisse ici son habit rouge, dont nous nous chargeons de boire les galons !» Ces dernières paroles étaient à peine prononcées qu'une demi-douzaine de figures patibulaires entouraient le malheureux valet, qui, perdant tout son aplomb et ne songeant pas le moins du monde à employer sa force physique pour se débarrasser des importuns, répétait piteusement « Mes amis, mes bons amis, laissez-moi donc vous expliquer que je suis des vôtres et que vous retrouvez en moi un vieux compagnon d'aventure. » « Nous n'avons pas d'amis parmi les laquais, » répondirent des voix rauques et menaçantes. Nous n'avons pas de compagnons sous la livrée. Nous buvons les galons, mais nous n'en portons pas. Mais, encore une fois, laissez-moi vous dire. Rien. Allons, drôle, ôte ton habit, et vite, et file. Le laquais, ainsi malmené, allait se voir contraint d'obéir, quand tout à coup il poussa une exclamation de joie. Tout en promenant autour de lui ses yeux effarés, il venait d'apercevoir une figure de connaissance, précisément celle qu'il était venu chercher. Au cabaret de Mars et Vénus. Hé, Mathias Aubert ! Cria-t-il. Viens à mon aide et tire-moi de là ! Mathias Aubert, absorbé sans doute dans une série de réflexions philosophiques d'une haute portée, n'avait prêté jusqu'alors aucune attention à la scène qui se passait auprès de lui. En s'entendant nommer, il releva la tête et il regarda celui qui l'interpellait. Ha ha ! Fit-il ensuite du ton le plus calme. C'est toi ? Jean Carré ? Eh, tu le vois bien que c'est moi, répliqua le laquais d'Antonia Verdi. Encore une fois, tire-moi de là. Allons, vous autres, dit Mathias Aubert en s'adressant aux figures patibulaires qui faisaient le cercle autour du valet. Bas les pattes, et taisez vos becs. Ce gentilhomme est de mes amis. Le cercle se rompit aussitôt, non sans murmure, et une voix hargneuse demanda. Puisqu'il est des amis du lynx, cet oiseau-là, pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt ? Avec ça que vous m'en avez laissé le temps, mes jolis enfants, répliqua Jean Carré dont toute l'assurance était revenue. Une autre fois, je vous le dirai. Mais en attendant, souvenez-vous du proverbe. Jeu de main, jeu de vilain. Ceci dit, le valet profita de la liberté qui lui était enfin rendue pour aller s'asseoir en face de Mathias Aubert, avec lequel il échangea une poignée de main et qui lui demanda. Par quel hasard ici, Jean Carré ? Ce n'est pas le hasard qui m'amène. Qu'est-ce donc ? Je viens chercher quelqu'un. Au cabaret de Mars et Vénus ? Oui. Et peut-on te demander quel est ce quelqu'un ? Parfaitement. Alors je te le demande. Et je réponds, Mathias Aubert, que ce quelqu'un, c'est toi. Ah ah ! Ça t'étonne ? Non. Viens-tu de ton chef ? Oui. Et pour ton compte ? Non. Tu es toujours au service d'Antonia Verdi ? Oui. Alors, c'est que ta maîtresse a besoin de moi. Elle a besoin, du moins, d'un homme qui, comme toi, et les yeux du lynx et la finesse du regard. Et tu as pensé à moi. Comme tu dis. Merci. Enfin, il s'agit d'une affaire. Et d'une affaire comme tu les aimes. Point de risque alors? Et des bénéfices? Juste. Il y a de l'argent à gagner? Il y en a. L'affaire m'ira. Je le vois d'avance. Eh bien, causons. Oui, mais d'abord... Quoi? Demande du tabac et de l'eau de vie. Si toutefois tu as dans tes poches de l'argent pour payer cette eau de vie et ce tabac. Jean Carré frappa sur son gousset. De l'argent, dit-il, et il y en a là-dedans. Et de l'or aussi, mon vieux. Oh oh, il paraît que la maison d'Antonia Verdi est bonne. Ah, je le crois bien qu'elle est bonne. C'est une maison où on voit le diable, mais où on ne le tire jamais par la queue. Et Jean Carré, dans un transport d'enthousiasme bien senti pour l'esprit dont il venait de faire preuve, se mit à rire bruyamment et à gorge déployée. Mathias Aubert fit lâchement chorus avec lui. Que voulez-vous? Dans quelque poche qu'il soit placé, l'or a toujours des courtisans. Le laquais d'Antonia fit venir en abondance du tabac et de l'eau-de-vie, puis il reprit. Tu sais ce qui se passe? Où? Demanda Mathias Aubert. Chez nous et au Palais Royal. Je n'en sais pas un mot, au contraire. Alors, mon vieux, je t'apprendrai que nous sommes en grandissime faveur, et que je ne sais vraiment pas où cette faveur s'arrêtera. Tant mieux pour vous. Connais-tu la dernière galanterie du régent à notre endroit? Non. Il vient de nous donner une ravissante maison, rue de la Cerisaie, et il fait les frais de notre table et de notre équipage. Nous avons des chevaux, des carrosses et des laquais, et je suis élevée à la dignité d'homme de confiance. Confiance bien placée, s'écria Mathias Aubert. Dont j'abuse comme tu peux croire, ajouta Jean Carré. Oh, je n'en doute pas. Ai-je eu assez de chance, hein, quand j'ai fait ce coup de tête que tout le monde traitait de folie? Quel coup de tête? Tu sais, à Marseille, en quittant tout pour suivre Antonia Verdi, qui n'avait ni sou ni maille, c'était à qui me rirait au nez. Eh bien, moi, j'avais confiance. Et tu vois où nous en sommes aujourd'hui? Et je t'en félicite de bon cœur. Eh bien, mon vieux, ce n'est pas tout. Qu'y a-t-il encore? Tel que tu me vois, je ne serais pas extrêmement étonné de me trouver un jour ou l'autre premier ministre du royaume de France. Tu dis? S'écria Mathias Aubert, ne pouvant se persuader qu'il avait bien entendu. Jean Carré répéta sa phrase. « Ah ça, mais deviens-tu fou ?» lui demanda son compagnon. « Ou bien, te moques-tu de moi ?»« Ni l'un ni l'autre, et tu vas voir que j'ai tout mon bon sens. Il paraît certain que le règne de la Parabère, de la Sabran, de la Phalaris et de toutes les autres est passé. »« Ah ah, et qui les remplace ?»« Antonia Verdi. » »« Mais dans ce cas, elle serait donc maîtresse en titre ?» Maîtresse en titre, maîtresse reconnue, oui, mon vieux. Or, suis bien mon raisonnement. Philippe d'Orléans, s'étant toujours laissé et devant toujours se laisser gouverner par les femmes, Antonia Verdi, favorite déclarée du régent, comme le fut, par exemple, la Montespan sous le dernier règne, aura le plus grand intérêt du monde à avoir au ministère un homme tout à sa dévotion. Je suis cet homme. Quoi donc ne remplacerais-je pas, et avec avantage, ce gredin de Dubois, que certes, je vaux bien sous tous les rapports. Mathias Aubert s'inclina ironiquement devant Jean Carré en lui disant « Monseigneur le Premier ministre, je vous salue bien humblement, et je vous recommande de ne pas m'oublier dans la prochaine répartition de vos faveurs. Je me contenterai de la moindre chose, Monseigneur. Je suis si peu ambitieux que j'accepterai même une place de contrôleur général ou de fermier des gabelles. » Jean Carré s'associa de bonne grâce à cette plaisanterie et répondit d'un ton sérieux et protecteur. « C'est bien, brave homme, c'est bien. Je vous promets de penser à vous. » « À propos, » demanda Mathias Aubert en changeant de ton, « quand tu seras ministre, seras-tu en même temps cardinal? Et pourquoi donc pas? Je puis être cardinal comme Dubois ? Et même mieux que lui. Pourquoi mieux? Parce que pour entrer dans les ordres, je possède, sur le fils du pharmacien de Brive-la-Gaillarde, un immense avantage.
Lequel ?
Son éminence éminentissime est mariée. Et moi, je ne le suis pas. C'est ma foi vrai.
Chapitre 17. Mathias Aubert et Jean Carré.
Tout ceci est très bien, fit Mathias Aubert, et nous avons beaucoup d'esprit. Mais le temps passe et les paroles se perdent. Tu m'as dit, Jean Carré, que nous avions à causer d'une affaire sérieuse. Me voici tout prêt. Causons.
Causons, répéta le laquais. Et d'abord, pour entrer en matière, il est utile que je remette sous tes yeux certains faits récents qui nous concernent l'un et l'autre.
Mon oreille est ouverte et je t'accorde mon attention.
Il y a de cela 15 jours ou 3 semaines, un peu plus ou un peu moins, qu'un beau matin, en sortant de l'hôtel de Lyon, dans la rue de la Jussienne, que nous habitions encore ma maîtresse et moi, je te vis installé en face de la porte cochère, semblant attendre quelqu'un ou guetter quelque chose.
Tu me reconnus et tu vins à moi.
Précisément. Je me félicitais de rencontrer un vieil ami et je te demandais ce que tu faisais là.
À cette demande, tu répondis par une question.
Habiterais-tu par hasard l'hôtel de Lyon ? Me dis-tu ? Et sur ma réponse affirmative, tu continuas à peu près en ces termes. Connaîtrais-tu certaines dames se disant italiennes et qu'on nomme Antonia Verdi ?
Ce à quoi tu répliquas que tu connaissais la dite dame, étant attaché à son service en qualité de valet de chambre, de valet de pied, etc., etc.
Tu vois que ma mémoire est fidèle.
Je n'en ai jamais douté.
Je te fis question sur question,
auxquelles je ne voulais pas répondre. Rends-moi la justice d'en convenir.
C'est vrai, ta résistance fut héroïque, jusqu'au moment où je te glissais dans la main un double louis.
Dame, que veux-tu ? Nous n'étions pas encore en faveur dans ce moment-là. Nous ne roulions pas sur l'or.
D'ailleurs, je suis extrêmement faible quand il s'agit de rendre service à mes amis.
Tu prononces mal, interrompit le lynx en riant. Tu dis « rendre service » et c'est « vendre » que tu veux dire.
Eh, mon Dieu, répliqua Jean Carré, n'équivoquons pas sur les mots.
Bref, je te renseignais de mon mieux.
Ce dont je te sais un gré infini.
Mais, afin d'en revenir à ce qui nous occupe, il n'était pas besoin d'être un grand sorcier pour comprendre à merveille que ce n'était point un motif de curiosité personnelle qui te poussait à t'enquérir ainsi de tout ce qui concernait Antonia Verdi. Tu travaillais pour le compte de quelqu'un.
Parbleu !
Un gentilhomme quelconque t'a payé fort cher les renseignements que je t'ai donnés, à fort bon marché.
C'est, ma foi, très possible.
Dis-moi le nom de ce gentilhomme.
Ah, pour cela, non.
Tu refuses ?
Très bien.
Mais pourquoi ?
Parce que ce gentilhomme, ainsi que tu l'as deviné avec ton esprit vif et ta perspicacité rarement en défaut, m'a acheté tout à la fois mes renseignements et ma discrétion. Je suis honnête homme. Je n'ai qu'une parole et je ne puis pas te donner ce que j'ai vendu à un autre. »
Jean Carré haussa les épaules.
« Tiens, dit-il, voici 3 louis. Dis-moi ce nom. »«
Allons donc !» s'écria Mathias Aubert. « Est-ce que tu te figures que je transigerais avec ma conscience pour 3 misérables louis ?»«
À quel prix estimes-tu cette transaction, pour parler comme toi ?»«
À 10 louis. »«
C'est trop cher. » »«
Alors n'en parlons plus. »
Écoute, tu perds une bonne aubaine, car ce nom que tu refuses de nous livrer, nous le savons.
Ah, vous le savez?
Oui.
Alors, ne me le demandez pas.
Et la preuve que nous le savons, c'est que je vais te le dire.
J'attends.
Ce gentilhomme s'appelle le chevalier Raoul de la Tremblée. Tout en lançant cette dernière phrase, Jean Carré observait avec une extrême attention le visage de Mathias Aubert. Mais quoique ce dernier fût prodigieusement étonné, sa physionomie resta impassible. Pas un muscle ne bougea dans sa figure.
« Tu vois ? » dit Jean Carré, désappointé.
« Je vois,
répondit Mathias, que, puisque vous êtes si certain de votre affaire, vous n'avez pas besoin de moi. Est-ce que nous nous trompons? Vous devez le savoir mieux que moi. Eh bien, transigeons. Dis-moi si nous ne nous trompons pas, et je te donnerai 5 louis. 10 ou rien. De mulet. Je suis ça. C'est à prendre ou à laisser. Tiens, voilà tes 10 louis. Le nom? Ma foi, répondit Mathias Aubert après avoir empoché les 10 pièces d'or, vous ne vous trompiez point. C'est bien pour le compte du chevalier Raoul de la Tremblay que j'espionnais Antonia Verdi. Mes compliments, s'écria Jean Carré en riant. Tu es d'une jolie force, toi. Voilà 10 louis que tu nous voles comme dans un bois. Pas du tout. J'ai joué franc jeu. Je ne vous ai pas forcé à acheter ma marchandise, qui était la vôtre. Mais comment diable avez-vous appris que le chevalier de la Tremblay m'avait mis à vos trousses? Nous n'avons pas appris, nous l'avons deviné. Comme cela, d'instinct, sans indice. Ah si, madame avait un indice. 4 ou 5 jours après notre rencontre dans la rue de la Jussienne, j'entendis sonner à la porte de l'appartement que nous occupions. J'ouvris et vis une jeune dame, blonde et pâle, qui semblait très émue et très agitée, et malgré cela, belle comme les anges. Elle demanda à voir ma maîtresse. Je lui répondis que la signora Antonia Verdi ne recevait personne ce soir-là. « Allez lui dire, je vous prie, » dit la jeune dame, « que c'est madame de la Tremblay qui demande à lui parler. » Je répliquai que je n'irais rien dire du tout, attendu que madame venait de s'enfermer, et que quand madame était enfermée, la maison brûlerait sans qu'il fût possible de parvenir jusqu'à elle. Ce qui, du reste, était l'exacte vérité. « Et que fit la jeune dame ?» demanda Mathias. Elle s'en alla d'un air très triste. Elle avait déjà descendu quelques marches quand je la rappelai pour lui dire « Faut-il répéter votre nom à madame et annoncer que vous reviendrez ?»« Et alors ?» Et alors, après avoir hésité un instant, elle me répondit « C'est inutile, je ne reviendrai pas. »« Tiens, 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 » fit Mathias Aubert, « tout cela est assez bizarre. » « Attends donc, tu n'es pas au bout. » Le lendemain, en servant le déjeuner, je parlais à ma maîtresse de la visite de la veille. En m'entendant prononcer le nom de madame de la Tremblay, Antonia Verdi poussa un cri, et sa figure se décomposa. « Mais malheureux !» me dit-elle avec colère et comme si je n'avais pas obéi scrupuleusement aux ordres qu'elle m'avait donnés elle-même. « Il fallait me prévenir. Il fallait au besoin briser les portes pour arriver jusqu'à moi. » Il fallait enfin ne pas laisser partir cette dame de la Tremblay. Mais au moins, reviendra-t-elle? Je fus bien forcée de répondre que cela était extrêmement douteux. Madame me malmena très fort, m'appela l'ourbutor et machine inintelligente, me fit une foule de questions au sujet de l'âge et de la figure de la visiteuse, eut une véritable crise en apprenant qu'elle était très jeune et merveilleusement belle, et ne sortit pas de la journée, espérant toujours que madame de la Tremblay reviendrait. Chapitre 18. Jeanne et Raoul. Quel diable de mystère y a-t-il au fond de tout cela ? Murmura Mathias Aubert. Jean Carré poursuivit. Depuis ce jour, Antonia Verdi n'a pas cessé d'être soucieuse, préoccupée, inquiète. Quoique sa faveur au palais royal grandiose d'une façon invraisemblable et inespérée, et que le régent l'accable de marques de sa bienveillance, et je dirais même de son amour. Notre installation dans le petit hôtel de la rue de la Cerisaie ne l'a pas rendue plus gaie. Hier, elle était invitée à souper au palais royal. Elle fit demander au régent une liste des convives, et voyant sur cette liste le nom du chevalier de la Tremblay, elle imagina je ne sais quel prétexte pour ne point assister au souper. Enfin, ce matin, elle m'a donné l'ordre de chercher et de trouver un homme très habile, très expert en ces sortes de choses, très actif, très discret, qui, dans le délai le plus bref, la renseignerait d'une façon extrêmement complète sur tout ce qui concerne notre épouvantail actuel, le chevalier Raoul de la Tremblay et sa femme. Et c'est alors que tu t'es souvenu de ce pauvre Mathias Aubert.
Naturellement. Tu comprends bien qu'on a des amis ou qu'on n'en a pas.
Et puis, tu ne connaissais peut-être personne d'autre à qui t'adresser.
Ah, par exemple, je n'avais au contraire que l'embarras du choix.
Tu dis cela pour te dispenser de la reconnaissance que tu me jurais tout à l'heure.
Mais je te sais d'humeur plaisante, et je prends la chose au comique.
Maintenant, parlons sérieusement. Feras-tu notre affaire?
Cela dépend des conditions.
J'ai dit qu'elle serait satisfaisante.
Tu me l'as dit, mais tu n'as rien précisé.
Formule un chiffre.
Eh bien, parlons de 25 louis.
N'en parlons pas, au contraire.
Le chevalier de la Tremblay m'en a donné 30 pour lui faire un rapport sur Antonia Verdi.
Alors, nous ferons aussi bien les choses que le chevalier. Tu auras les 30 louis que tu demandes.
Ce n'est pas 30 louis qu'il me faut.
C'est 60.
Allons donc. Pourquoi le service étant le même, le salaire serait-il double?
Par cette raison bien simple, qu'en agissant pour le chevalier, je travaillais pour le compte d'un pauvre petit gentillâtre, obscur et médiocrement riche. Aujourd'hui, en espionnant pour Antonia Verdi, je me mets à la solde d'une des maîtresses de Philippe d'Orléans, régent de France, c'est-à-dire d'une femme à qui l'or ne coûte d'autre peine que de le demander. Évidemment, je monte en grade, et les honoraires de mon emploi doivent grandir en conséquence.
Le drôle est logique, murmura Jean Carré en riant.
Soit, ajouta-t-il, un futur premier ministre, traitant au nom d'une future régente de la main gauche, ne peut pas marchander comme un simple mortel. Tu auras tes 60 louis.
À la bonne heure.
Veux-tu des arts?
J'en accepterai assez volontiers.
Voilà 15 louis. Nous remettrons le reste contre livraison de notre rapport. Seras-tu bientôt en mesure?
J'ai déjà bon nombre de renseignements. Je vais m'occuper de les compléter. Et j'espère, samedi prochain, pouvoir satisfaire Antonia Verdi.
Voilà qui va bien. Je crois que nous serons contents de ton zèle.
Où te reverrai-je?
Tu comprends que je ne me commettrai pas une seconde fois dans un établissement malfamé tel que celui-ci. Et où sans toi, on aurait bien pu me faire un mauvais parti tout à l'heure. Ce serait compromettre ma livrée. Tu viendras rue de la Cerisaie, à notre hôtel, et tu demanderas Jean Carré.
Verrai-je ta maîtresse?
C'est probable. Madame voudra te questionner elle-même.
C'est bien, je soignerai ma tenue. Le beau sexe me fut toujours cher.
Scélérat de Mathias Aubert, s'écria Jean Carré en se levant. Les deux hommes échangèrent une nouvelle poignée de main, et le laquais d'Antonia Verdi quitta le cabaret de Mars et Vénus. Laissons Mathias Aubert gagner loyalement son argent en s'efforçant de percer les mystères de la vie privée du chevalier de la Tremblay. Laissons Jean Carré se bouffir d'orgueil dans sa haute position d'homme de confiance d'Antonia Verdi et rêver qu'il sera bientôt le bras droit de la favorite en titre. Laissons Philippe d'Orléans attendre avec impatience cette fameuse nuit du samedi qui doit lui montrer la jeune Balkis, l'éblouissante reine de Saba, la maîtresse du grand Salomon. Laissons là pour un instant tous ces personnages que nous retrouverons bientôt et rejoignons Raoul et Jeanne dans leur logis mystérieux. Le moment était venu pour Raoul d'expliquer à Jeanne ce qu'il attendait d'elle et de lui détailler le rôle qu'il lui réservait dans la scène étrange qui devait se jouer le samedi suivant au Palais-Royal pour la grande mystification de son Altesse Philippe d'Orléans, premier prince du sang, régent de France. Or, ainsi que l'avait très bien prévu le marquis de Tiange, cette explication ne laissait pas que d'embarrasser très fort monsieur de la Tremblay. Il savait bien que Jeanne finirait par obéir, mais il savait aussi que la nature candide et si franche de la jeune femme commencerait sans doute par se révolter et n'accepterait qu'à grand-peine la complicité qu'on lui imposerait dans une fourberie sacrilège. Raoul aimait Jeanne, nous ne l'ignorons pas. Il n'en était pas encore arrivé à ne voir en elle qu'un instrument passif. Il ne voulait ni l'affliger, ni la froisser, et l'idée de perdre son amour et son estime l'épouvantait. Aussi, pour toutes ces raisons, avait-il reculé autant que possible l'entretien auquel nous allons faire assister nos lecteurs. Mais on était au vendredi soir. Il devenait impossible de retarder plus longtemps, et en face de cette impossibilité, Raoul prit son parti. Habile comédien s'il en fut, il commença par donner à son visage une expression triste et soucieuse qui ne pouvait manquer d'attirer l'attention de Jeanne. La jeune femme, en effet, s'inquiéta tout aussitôt de cette physionomie mélancolique et sombre, et elle questionna Raoul. Ce dernier ne répondit d'abord que d'une façon vague et évasive. L'inquiétude de Jeanne redoubla. Raoul, par ses adroites réticences, n'eut pas de peine à changer cette inquiétude en véritable épouvante. Jeanne se persuada qu'un malheur était imminent et elle voulut savoir d'où viendrait ce malheur. Le moment était opportun, Raoul le saisit. « Jeanne, » dit-il en prenant la jeune femme dans ses bras et en l'appuyant contre son cœur avec un mouvement passionné. « Jeanne, tu m'aimes, n'est-ce pas ?» La jeune femme attacha sur le visage de son mari le regard de ses grands yeux étonnés et elle murmura « Si je t'aime, pourquoi me demandes-tu cela ?»« Si je t'aime, demande-moi plutôt si mon cœur bat, car si j'avais cessé de t'aimer, c'est qu'il aurait cessé de battre. » Et si, au nom de cet amour, je sollicitais une grande preuve de dévouement, me l'accorderais-tu ? Une preuve de dévouement, dis-tu ? Oui. Tout ce que tu pourrais attendre de moi, Raoul, je le ferais, sans hésiter et avec bonheur. Tout, excepté une seule chose. Laquelle ? Me séparer de toi. Il est question de nous séparer, en effet, ma pauvre enfant. Mais grâce au ciel, ce que j'attends de toi peut éviter cette séparation. Toi seul as le pouvoir d'empêcher les portes de la Bastille de se fermer sur moi. Peut-être pour toujours. « La Bastille ?» répéta Jeanne avec un cri d'angoisse. « La Bastille ? Et je puis l'empêcher ?»« Oui. » »« Et tu hésites ? Ah, Raoul, comme il faut que je t'aime pour te pardonner. Quand j'aurai parlé, ma bien-aimée Jeanne, tu comprendras mon hésitation. Tu comprendras que parfois je me dis « Mieux vaudrait peut-être subir une éternelle prison que de voir ma femme chérie, ma Jeanne adorée, accepter un rôle indigne d'elle. » « Un rôle indigne de moi ? Mais je sais trop, mon Raoul, que tu ne peux rien me demander de déshonorant. D'ailleurs, mon honneur est le tien. N'es-tu pas le maître d'en disposer ? Une éternelle prison, Raoul ? Une séparation éternelle, pour moi, ce serait la mort. Et je suis si jeune encore. Et près de toi, la vie est si belle. Oh, Raoul, ne me condamne pas à mourir. Écoute-moi donc, puisque tu le veux. Et si étrange que te paraissent ces choses que je vais te dire, ne doute pas de moi. Je douterai plutôt de Dieu. Je t'ai parlé à maintes reprises d'une prétendue conspiration inventée par je ne sais quel suppôt de police désireux de faire parade d'un zèle menteur. Et j'ai ajouté que quelques paroles imprudentes m'avaient compromis dans cette conspiration apocryphe. Oui, et c'est toujours avec une profonde terreur que je t'entendais parler légèrement du péril qui planait sur toi. Un secret instinct m'avertissait que ce péril était plus grave que tu ne le croyais toi-même. Ton instinct ne te trompait pas. Le péril était grave. Il l'est surtout devenu.
Pourquoi ?
Chose étrange, pour des circonstances auxquelles tu n'es pas étrangère.
Moi ?
Balbutia Jeanne en se tordant les mains avec désespoir.
Moi ?
Je serai une des causes du danger qui te menace ? Oh, ne dis pas cela, Raoul, ou je sens bien que je deviendrai folle. Calme-toi, cher enfant. Je te répète que ce péril peut se conjurer.
Mais tu me dis aussi que je l'ai fait grandir. Je t'en prie, je t'en supplie. « Je te demande à genoux. Explique-toi, et que je sache au moins de quoi je suis coupable. »«
Tu n'es pas coupable, ma bien-aimée, et c'est le hasard, ou plutôt, c'est le mauvais sort qui fait tout. »« Tu te souviens de ce jour, le seul qui n'ait pas été complètement heureux depuis l'époque de notre union ?»«
Le jour d'Antonia Verdi ?»
murmura Jeanne en baissant les yeux. « Oui, tu te souviens de l'insolente et brutale agression de ce gentilhomme, aux violences duquel tu fus arraché par le commandeur de Malte, Don Raymond de Vasconcelos.
« Je me souviens, »
dit Jeanne d'une voix à peine distincte.
T'ai-je jamais dit quelle fut l'issue du combat entre le commandeur et ce gentilhomme ?
Jamais.
Don Raymond tua le vicomte d'Aubigny.
Une mort sanglante ? S'écria Jeanne. Et pour moi ? Ah ! Quelle terrible expiation de ma jalousie insensée !
Or, continua Raoul, le vicomte d'Aubigny était un des favoris du régent. Et tout le monde, le régent lui-même, croit que c'est moi qui me suis battu avec le vicomte et que c'est moi qui l'ai tué.
Mais, puisque ce n'est pas vrai, dit Jeanne avec impétuosité, puisque tes mains sont pures de son sang, pourquoi ne pas te justifier ? Pourquoi ne pas nommer le véritable meurtrier ?
Tu oublies, Jeanne, que c'est en prenant ta défense que ce meurtrier, comme tu l'appelles, a tué M. d'Aubigny dans le plus loyal de tous les combats. Tu oublies que nous lui devons une reconnaissance sans borne et sans fin, et que le trahir serait une lâcheté infâme.
Tu as raison, Raoul. Et comme je ne voyais que toi, comme je ne pensais qu'à toi, j'oubliais tout.
Donc, poursuivit le chevalier, on m'accuse. Et tu le comprends maintenant, je ne puis me justifier. Philippe d'Orléans veut venger la mort de son favori. Et déjà une lettre de cachet m'aurait envoyé pourrir à la Bastille, dans un des sombres cachots qui ne rendent jamais leur proie. Si monsieur de Tiange, cet ami dévoué, n'avait exploité en ma faveur l'une des plus étranges faiblesses du régent.
Que veux-tu dire ?
Philippe d'Orléans, ce prince débauché et superstitieux, consacre à l'étude et à la pratique des sciences cabalistiques tout le temps dont ses honteux amours et les soins du gouvernement lui permettent de disposer. Et encore, le plus souvent, est-ce sur l'infâme Dubois qu'il laisse reposer les destinées de la France. Philippe d'Orléans est sans pitié pour un gentilhomme outragé, qui, l'épée à la main, venge son honneur. Mais il pardonnerait tout, même un crime, au prétendu magicien, au rose-croix, à l'adepte, en un mot à l'intrigant habile qui saurait flatter ses manies et donner des encouragements à ses absurdes et chimériques croyances. Jeanne écoutait avec stupeur, ne comprenant pas, ne pouvant pas comprendre où Raoul en voulait venir.
« Mais, mon ami, demanda-t-elle enfin, que puis-je à cela, moi ? Qui pouvons-nous tous deux ?»«
Rien en apparence, tout en réalité. »«
Comment ?
Je t'ai prévenu, cher enfant, que j'avais à t'apprendre des choses étranges. Et c'est ici qu'en effet, ces choses étranges vont commencer. Le marquis de Tiange, te disais-je tout à l'heure, a eu l'idée d'exploiter pour me sauver la plus bizarre des faiblesses de Philippe d'Orléans.
Qu'a-t-il donc fait ? Et quelle était son idée ?
Il m'a montré au régent sous le seul jour qui pouvait me le rendre favorable. Il lui a dit que j'étais un adepte de premier ordre, un habile initié à la science terrible des enchantements. Enfin, il est parvenu à arrêter pour un instant la foudre qui menaçait de me frapper.
Le marquis de Tiange a fait de son mieux, et je lui en suis reconnaissante de toute mon âme. Mais quand le régent saura qu'il a été trompé, comment désarmer sa colère, que cette ruse accroîtra sans doute ?
Quand le régent apprendra qu'il a été trompé, dis-tu ?
Oui, sans doute, mais il faut qu'il ne l'apprenne pas.
Est-ce donc possible ?
Oui.
De quelle façon ?
Sans doute, Philippe d'Orléans ne se contentera point des assertions de M. de Tiange. Il demandera des preuves de ta science cabalistique.
Il les a demandées déjà.
Eh bien ?
Eh bien, il existe un moyen de les lui donner.
Jeanne devint pâle. Mon Dieu ! Mon Dieu ! S'écria-t-elle avec effroi. Est-ce que M. de Tiange aurait dit la vérité ?
Pauvre chère folle, peux-tu le penser ? Répondit Raoul avec un sourire qui rassura Jeanne. Puis il ajouta « Mais crois-tu qu'il ne soit point permis et légitime de tromper un prince crédule pour sauver sa liberté et sa vie peut-être, injustement menacée ?»«
Oui, certes, cela est permis. Oui, certes, cela est légitime. Mais comment faire ?»
Le marquis de Tiange a particulièrement insisté sur une puissance d'évocation merveilleuse qui me permettrait de faire surgir les morts de leur tombeau et de donner l'apparence de la vie, le mouvement et la parole aux figures inanimées d'un tableau ou d'une tapisserie.
Eh bien, les morts, à ta voix, ne s'éveilleront pas. Les figures inanimées resteront immobiles et muettes.
Oui, sans doute, en réalité.
Mais on peut suppléer à cette réalité par une fantasmagorie hardie et habile.
Le crois-tu ?
Je fais mieux que le croire, j'en suis sûre.
Que Dieu t'entende et qu'il nous sauve, murmura Jeanne.
Voilà, dit Raoul en souriant de nouveau, voilà une pieuse et rassurante invocation dans la bouche de la femme et de la complice d'un magicien, d'un mécréant.
La complice, dis-tu ?
Oui.
Eh bien, j'accepte la complicité.
Seulement, je ne sais pas encore en quoi elle peut consister. En parlant au régent comme il l'a fait, De Tiange avait tout prévu. Il ne me lançait point en aveugle vers un précipice qui ne pouvait que m'engloutir. Bref, cette fantasmagorie que Philippe prendra pour une réalité, il en avait trouvé la base. Et cette base repose sur toi.
Sur moi ? Répéta Jeanne.
Oui.
Mais comment ?
Cherche et devine.
J'ai beau chercher, ma tête s'y perd,
répondit Jeanne au bout de 2 ou 3 minutes de réflexion. Ne te souviens-tu donc plus d'une ressemblance accidentelle, mais inouïe, phénoménale ? D'une ressemblance qui jadis m'a fait croire à une vision ?
Jeanne secoua la tête.
Cherche encore, poursuivit Raoul. Cherche encore, ma jeune et bien-aimée reine. Et il appuya à dessein sur le mot reine qu'il souligna en quelque sorte.
Ah !
S'écria Jeanne en portant la main à son front par le geste machinal de toute personne qui se souvient.
Je sais, la reine de Saba, n'est-ce pas ? La tapisserie du petit Chastel.
C'est cela même, cher enfant.
Mais de quelle façon cette ressemblance peut-elle servir tes projets ?
De la façon du monde la plus simple.
De Tiange est allé au petit Chastel. Il a enlevé la tapisserie et il l'a mise sous les yeux du régent, en lui persuadant, par le récit de je ne sais quelle légende fantastique, que la figure de la tapisserie était le portrait parfaitement ressemblant de la véritable reine de Saba.
Et le régent a cru cela ?
Philippe d'Orléans croit tout ce qui est incroyable et il garde son incrédulité pour les choses possibles et vraisemblables.
Le marquis de Tiange ne s'en tint pas là. Il affirma, de la façon la plus solennelle, qu'à ma voix, la reine de Saba quittait la tapisserie séculaire et redevenait une femme. À ceci, le régent répondit que si je le rendais témoin d'un pareil prodige, non seulement sa colère contre moi serait oubliée, mais encore qu'il m'accablerait de ses plus précieuses faveurs.
Et c'est sur moi que le marquis de Tiange a compté pour cette transformation, n'est-ce pas ?
Oui, mais je te le répète, tout cela s'est fait sans mon aveu, et je préfère braver les périls qui me menacent à cette idée humiliante de te voir accepter un rôle indigne de toi, indigne aussi du nom que je t'ai donné.
Et cependant, répliqua Jeanne avec énergie, je le remplirai ce rôle. Il le faut, je le veux.
Mais songe donc. Jeanne interrompit son mari en lui mettant doucement une de ses belles mains sur la bouche.
« Je ne songe à rien, dit-elle, à rien, si ce n'est à cette joie immense, à ce bonheur infini de pouvoir me dire que je t'ai sauvée. »«
Ainsi, tu l'exiges ?»«
Je n'exige rien, mon ami, mais je te supplie, au nom de notre amour que tu invoquais tout à l'heure, je te supplie d'accepter mon humble et facile dévouement. »«
Est-ce qu'il n'est pas convenu entre nous que je suis ton bon ange ?
Je veux l'être au moins une fois. » »«
Mais...
n'auras-tu pas peur ? Insista Raoul.
Peur ? Moi ? Quand c'est pour toi que j'agirai ?
Oh non, Raoul, je n'aurai pas peur.
Songe que pour mieux abuser Philippe d'Orléans, l'appareil de l'évocation et tout l'ensemble de la fantasmagorie seront rendus à dessein aussi effrayants que possible.
Que m'importe ? Encore une fois, Raoul, je te le demande à genoux. Ne cherche plus à me détourner d'une irrévocable résolution.
Tu consens, n'est-ce pas ?
Il le faut bien, puisque tu le veux.
Merci, mon bien-aimé Raoul. Merci 100 fois. Et encore 1000 fois merci.
Quel sera le jour du début dans le monde fantastique de ta pauvre reine de Saba ?
Ce jour est bien proche.
Aujourd'hui, peut-être ?
Non, demain.
Où ?
Au Palais Royal.
À quelle heure ?
À minuit.
Devant une assemblée nombreuse ?
le régent et deux ou trois personnes, tout au plus.
Qu'aurais-je à faire ?
Presque rien. D'ailleurs, demain dans la journée, nous te ferons faire, de Tiange et moi, une répétition au palais royal.
Mais si l'on voit ma figure, il me semble que tout l'effet de la scène du soir sera manqué.
Le cas est prévu, et c'est sous un déguisement que nous t'introduirons dans le palais royal.
Aurais-je à parler ?
Quelques mots à dire, quelques réponses à faire peut-être. Et encore, n'est-ce pas certain ?
Au régent ?
Non, à moi, qui t'interrogerai devant le régent.
M'adressera-t-il la parole, lui ?
Je ne le crois pas, et d'ailleurs, tu ne devras pas lui répondre.
Enfin, chère Jeanne, sois sans inquiétude, ton rôle te sera tracé d'un bout à l'autre. La leçon te sera faite, et il est impossible, complètement impossible, que quoi que ce soit puisse te causer un embarras sérieux.
Oh, je suis tranquille, mon Raoul. Et puis, tandis que tu feras semblant d'invoquer les démons, je me recommanderai au bon Dieu. Et comme il verra que nos cœurs sont purs, et que c'est dans un noble but que nous jouons une comédie en apparence coupable, il nous pardonnera, il nous protégera, il nous soutiendra. Ne le crois-tu pas, mon Raoul ?
Si, si, je le crois, répondit le jeune homme en serrant de nouveau Jeanne dans ses bras. Mais je crois surtout que tu es un ange.